Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal présenté par Lievin Mwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce journal, escalade des violences des groupes armés locaux sur différents axes routiers à Djougou. Les casques bleus de la MONUSCO y font face. Ils ont lancé depuis lundi la deuxième phase de l'opération Horizon de paix dans ce territoire de l'Ituri. C'est peut-être Noël avant Noël pour les Kinois. La baisse des prix des produits de première nécessité sur le marché de Kinshasa est effective depuis hier mardi. Constat du ministre congolais de l'économie qui a personnellement fait le tour des grands dépôts d'importation de ces produits de première nécessité. Restez avec nous et vous saurez davantage sur les résultats du rapport de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale au sujet de trois problèmes qui rongent Kinshasa, à savoir l'insalubrité, les embouteillages et les constructions anarchiques. Matata Ponyo, président de cette commission, est notre invité. Sachez d'abord que le président de la République sera tout à l'heure devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès pour prononcer son discours annuel sur l'état de la nation. Ici à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi va dans un discours d'une heure sans débat peindre la situation qui prévaut en RDC sur le plan politique, sécuritaire, économique et social, conformément à l'article 77 de la Constitution. D'après le programme publié, il est prévu que le président prononce son discours entre 11h et midi et sera retransmis en direct sur les ondes de Radio Okapi. Restez donc branchés sur Radio Okapi. L'actualité, c'est aussi les habitants de Djougou en Ituri qui pourront de nouveau circuler librement sans craindre les violences des groupes armés. Et pour cause, les casques bleus de la MONUSCO ont lancé la deuxième phase de l'opération Horizon de paix depuis lundi dans ce territoire de l'Ituri. Selon la mission onusienne, l'objectif est de contenir l'escalade des violences sur place. La société civile locale de son côté indique que ces opérations facilitent la libre circulation des personnes en vue de leur permettre de vaquer librement à leurs activités dans cette entité où les menaces des miliciens sont permanentes. Le point avec Isaac Remoyope.
Les groupes armés locaux dont Zaïre et Kodeko ont multiplié les exactions depuis environ un mois contre la population dans les territoires des Djougou. Ils tendent des embuscades contre les usagers des routes qui sont dépouillés de leurs biens, entre autres à Gokalou, Pitso et Djadjou. Au moins 6 personnes sont tuées depuis le week-end par ces miliciens. Conséquence, de nombreux habitants ne fréquentent plus leurs champs et certains marchés communautaires. Pour contenir ces violences des groupes armés, les casques bleus font des patrouilles sur plusieurs axes, Drodro, Largou, Masumbuko, Mazé. Ces forces de la MONUSCO ont également établi une base temporaire à Masumbuko dans le cadre des opérations Horizon de paix deuxième phase. Selon la société civile de la chefferie de Baïma Nord, l'impact est palpable, la libre circulation des personnes et l'accès aux champs. Charité Banza.
Cette patrouille-là a beaucoup forté à la population civile parce que comme il y avait beaucoup de psychoses dans les milieux, en tout cas, il y a des gens qui ont vu la MONUSCO en train de passer et ça a allégé un peu la souffrance de ça. Vous savez déjà au niveau de la route entre Drodro, parlant catholique de Drodro, en allant vers la direction de Boulé au nord, c'est parce que cette tronçon est totalement désert et puis les gens ne passent pas par cette tronçon-là.
Ces opérations vont se poursuivre sur la route nationale numéro 27 dans le cadre des mandats de la MONUSCO de protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis la présence d'hommes en armes et en uniforme en milieu public formellement interdite dans le Nord Kivu. Cette décision du gouvernement militaire ad intérim contenue dans un communiqué officiel est tombée hier mardi à Goma. Mais quels sont les milieux publics ciblés? Il s'agit notamment des débits de boissons et autres restaurants dans toutes les villes du Nord Kivu et c'est en particulier pendant les jours des fêtes de fin d'année. Cette mesure vise à renforcer la sécurisation de la population pendant les périodes festives, renforce le porte-parole militaire du gouverneur. Les propos du lieutenant-colonel Guillaume Djike Nkaiko sont recueillis ici par Bernardin Nyangi.
Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité du Christ, la Sainte-Sylvestre et les Nouvel An 2025, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, appelle tout le commandant des unités FRDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectif. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans le ville, au milieu public, dans les débits des poissons et restaurants. Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire.
Le chef d'état-major général des FRDC ainsi que le général-chef de la défense belge à Kindu, mission du général Christian Chiwewe et son hôte belge, se rendent compte du niveau de formation que reçoivent les militaires commandos formés au camp Luama, une formation qui entre dans le cadre du partenariat entre la RDC et le Royaume de la Belgique. Après les échanges avec les autorités provinciales, le Conseil de sécurité tenu sur place, le chef de l'exécutif provincial se dit confiant de la présence de ces deux personnalités au Maniema. On écoute Moussa Kabouankoubi, Moïse au micro de Florence Kizalunga.
Il s'agit d'une délégation conduite par notre chef d'état-major des FARDC, le général Chiwewe, ainsi que le chef d'état-major de l'armée belge. Comme vous le savez, le Royaume de Belgique appuie notre pays dans la formation de nos commandos. Et un des grands centres de formation des commandos se trouve ici à Kindu, dans la province d'Imania. La première délégation, je peux dire qu'elle était politique, mais là, ce sont maintenant des techniciens, les chefs d'état-major. Nous avons été avec les deux chefs d'état-major. Nous avons eu un long entretien avec notre chef d'état-major. On a passé en revue les problèmes sécuritaires de notre province. Et nous pensons que c'est un bon canal pour faire entendre les préoccupation de la province du Maniema à la haute hiérarchie du pays. La population peut remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nouer ce partenariat avec les Royaumes de Belgique, parce que vous savez que ces commandos qui sont formés ici au Maniema jouent un rôle primordial dans la défense de notre souveraineté, dans la défense de l'intégrité de notre pays.
Place à cette nouvelle qui va certainement faire des heureux, la baisse des prix des produits de première nécessité sur le marché, déjà une réalité à Kinshasa. Et oui, cette décision du gouvernement congolais est effectivement entrée en vigueur hier mardi 10 décembre 2024. Le ministre congolais de l'économie nationale s'en est personnellement rendu compte à travers la ronde qu'il a effectuée dans les grands dépôts d'importation de ces produits. Un reportage d'Emmanuel Elamechi rendu par Donna Madimba.
Les produits qui ont baissé de prix dès ce mardi, c'est par exemple le riz, le lait en poudre, le sucre, la farine de maïs, la viande, le poulet, le chinchard. À la société commerciale d'import-export Socimex par exemple, installée à Limété, la baisse est effective et varie entre 5% et 11%. Ce même constat est fait par le ministre congolais de l'économie nationale chez Sokim, Afrifood et Kobel. Cette baisse de prix n'est pas seulement faite pour la période de fête, mais doit rester pérenne. Ces opérateurs économiques bénéficient désormais de certains allègements fiscaux dès le dédouanement de leurs produits, et ceci jusqu'à décembre 2025.
Si les Quinois savourent la baisse des prix de produits de première nécessité, les Matadiens, eux, déplorent la paralysie des activités qui s'observent au port de la société congolaise de port et de pêche Sokopé dans cette ville du Congo central. À l'origine de cette situation, les embouteillages occasionnés par les véhicules en provenance de l'Angola qui font des transbordements le long de la route empêchant l'accès aux installations de la Sokopé, informe le responsable de ce port. Ce problème intervient au moment de l'entrée en vigueur de la mesure prise par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, interdisant tout véhicule d'origine étrangère de faire des courses à l'intérieur de la RDC, à l'exception de ceux en transit. Nana Plurich-Mambou nous fait le point.
À ces jours, les travailleurs, tout comme les responsables de ces ports, sont dans l'incapacité totale d'accéder aux installations portuaires. La frontière des Ango-Ango n'ayant pas d'espace, les véhicules angolais font des transbordements le long de la route et bloquent les passages des installations de la Sokopé, avec comme conséquence la paralysie des activités à la grande déception des importateurs qui pensent se retirer de ces ports. Pour s'imprégner de la situation, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central y a effectué une descente le lundi. Papi Mantezolo, qui a palpé du doigt cette triste réalité, promet qu'une résolution sera prise à l'Assemblée provinciale pour demander au gouverneur des provinces de prendre des mesures d'encadrement de la décision du VPM des transports. Parmi les solutions préconisées, les transbordements des véhicules angolais doivent se faire dans les différents ports secs de Matadi. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
L'Ituri peut être en voie d'entamer sa transformation. En tout cas, le plan d'action pour le développement de cette province a été validé ce mardi 10 décembre à Bounia. Il est chiffré à 627 millions de dollars américains. Ce plan constitue un document stratégique dont le gouvernement, les acteurs humanitaires et d'autres partenaires devront se référer pour réaliser des projets en faveur de la population pour la période allant de 2025 à 2029. D'autres détails avec Jean-Claude Lokidile.
Près de 100 personnes, parmi lesquelles des chefs de division de différents services étatiques, des acteurs humanitaires et des agences du système des Nations Unies, des mouvements associatifs de la jeunesse, ont participé aux travaux de validation de ce plan. Durant 17 jours, une équipe d'experts a élaboré ce plan d'action qui constitue un document stratégique pour exécuter des projets sociaux selon les besoins de chaque entité, a indiqué Jean-Paul Mokadi, expert en planification de développement au ministère du Plan. La priorité, souligne-t-il, vise à mener des actions pour restaurer l'autorité de l'État, résoudre la crise humanitaire qui affecte de milliers de personnes à travers la province. Il s'agit, explique-t-il, de renforcer le travail qu'effectuent les autorités de la province et du gouvernement central dans le cadre de rapprochement communautaire et encourager la démobilisation des personnes qui détiennent illégalement les armes. D'où viendra le fonds pour financer ce programme ambitieux, Jean-Paul Mokadi.
37% pour la province, 30% le gouvernement central, 20% les bailleurs, 13% à rechercher.
Quand est-ce que va commencer cette mise en œuvre?
La mise en œuvre de ces programmes, ça va commencer à 2025.
Le secteur de la santé, de l'éducation, de la jeunesse et de la promotion du genre et la protection de l'environnement sont d'autres secteurs ciblés par ce plan d'action de développement de l'Ituri. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour la province de la Tchopo. Le projet de DIP budgétaire pour l'exercice 2025 est déclaré recevable par les députés provinciaux. Il est élaboré en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de plus de 457 milliards de francs congolais. Ce projet a été présenté par le gouverneur de province, Paulin Lendongolia, ce mardi devant les élus provinciaux de son entité. C'était au cours d'une séance plénière ouverte au public, comme l'explique Jacques Mokonkole dans ce reportage.
Ce projet de DIP budgétaire traduit financièrement le programme d'action du gouvernement provincial, souligne le gouverneur de province. Paulin Lendongolia précise qu'il s'inscrit notamment dans le cadre des orientations stratégiques du programme d'action du gouvernement de la République. Néanmoins, fait-il remarquer, en dépit de ses potentialités économiques et son capital humain, le développement de la province de la Tchopo est tributaire de plusieurs défis à relever, notamment le climat des affaires délétères, la dépendance financière de la Tchopo vis-à-vis des taxes, l'incivisme fiscal, le délabrement très avancé des infrastructures routières, ainsi que le caractère rudimentaire de l'agriculture, pêche et élevage. Il compte sur la participation active de toutes les institutions pour y faire face. Dans leurs analyses, quelques parlementaires trouvent que ce projet d'édu est surestimé. En outre, il privilégie certains secteurs non porteurs de croissance, tels que le loisir au détriment de l'agriculture. D'autres encore relèvent des inégalités entre différents rubriques et entités administratives. Au finish, tout en déclarant recevable ce projet d'édit budgétaire, son autorité, Mathéus Kangalondimo, va le confier à une commission mixte pour toilettage et intégration des recommandations formulées au cours de cette séance. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le Royaume des Pays-Bas appelle à la prévention contre les désastres climatiques et environnementaux en RDC. Le chef de bureau de liaison de l'ambassade des Pays-Bas à Goma l'a dit lors de la cérémonie de clôture hier mardi des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. En partenariat avec l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, l'ambassade des Pays-Bas a organisé à cette occasion une journée de réflexion pour voir comment concilier les droits humains aux droits fonciers et climatiques. Écoutez à ce sujet, M. Michel Smet, ses propos sont recueillis par Bernardin Nyangui.
Aujourd'hui, c'est également le dernier jour de la campagne de l'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Et c'est ainsi que nous alignerons fortement dans la grande campagne Le Monde, mettant un accent sur la lutte contre les violences faites aux femmes ainsi contre la destruction de la nature et de l'environnement. Le film que nous venons de suivre, intitulé « Nous sommes les gardiens », est inspiré sur les réalités au Brésil dans les forêts amazoniennes. Vous avez vu les trois différentes parties impliquées dans les enjeux climatiques au Brésil et je pense bien que chacun de nous a su voir où elle ou il se situe. Ces réalités du Brésil peuvent sembler étrangères, mais les dynamiques environnementales similaires existent ici en République démocratique du Congo, mais même dans notre pays, aux Pays-Bas.
Actualité internationale.
En Guinée, le bilan de la bousculade meurtrière des Nzérékoré passe à 150 morts selon des ONG, 10 jours après la bousculade meurtrière lors d'un match de foot organisé en hommage au président Mamadi Doumbouya. Mais le gouvernement maintient son bilan provisoire de 56 victimes, un nombre qui n'a pas bougé depuis plus d'une semaine.
L'invité.
L'insalubrité, les embouteillages et les constructions anarchiques à Kinshasa sont devenus une question de sécurité nationale au regard des conséquences dont des morts en dizaines déjà enregistrées mais aussi des risques d'épidémie et de catastrophes. C'est ce qui ressort du rapport de la commission ad hoc sur ces trois fléaux qui forment un triangle de la mort exposant la vie de la population d'après la commission. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Augustin Matata Pogno, président de cette commission ad hoc. Il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Augustin Matata Pogno, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de présenter le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. Pourquoi qualifiez-vous ces trois fléaux de triangle de la mort?
Bon, c'est un triangle de la mort, justement, parce que c'est une image qui traduit la vérité. L'insalubrité tue au travers les épidémies. S'agissant des constructions anarchiques, elles tuent aussi. Il y a les éboulements qui finissent par emporter des maisons et des individus. Il y a des inondations. Tout comme vous avez vu, il y a des immeubles qui s'écroulent et tuent des innocents. Troisièmement, les embouteillages. Les embouteillages aussi tuent, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais les embouteillages tuent. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, leurs épouses, leurs enfants, parce que bon, voilà, et le véhicule ne s'est pas avancé. La personne était malade, mais si elle arrivait dans les 30 minutes qui suivaient, la personne serait sauvée. Donc, bref, tous les trois facteurs sont à la base de la mort. Voilà pourquoi nous avons schématisé ça pour une meilleure compréhension qu'il s'agit d'un triangle de la mort. Et vous avez vu, nous avons mis au milieu la population congolaise qui est prise en otage.
Mais quels sont les agents causaux de ces trois facteurs?
Bon, écoutez, vous l'avez suivi. D'abord, il y a la non-application de la loi. Il y a des lois qui gèrent le problème de la salubrité. Et ce ne sont pas des lois qui remontent à aujourd'hui. Des lois qui régissent les constructions, tout comme il y a les codes de la route. Le point de départ, c'est la non-application des règles. Et là, nous parlons des causes originelles. Mais il y a des causes aggravantes, parce que vous savez, aujourd'hui, les embouteillages sont à la base, parfois, des constructions anarchiques. Parce que les gens quittent les parties périphériques de la ville pour s'entasser vers les centres-villes. Et là, il n'y a pas d'espace. Les gens construisent maintenant sur les espaces verts, construisent sur des caniveaux. Donc, les embouteillages aggravent les constructions anarchiques. Mais les constructions anarchiques aggravent aussi l'insalubrité parce que les eaux ne savent plus passer, tous les caniveaux sont fermés. Mais l'insalubrité aussi est à la base des embouteillages parce qu'il y a des montagnes de déchets qui sont sur la route et ferment. Donc, bref, les trois fléaux au coin de chaque triangle s'aggravent mutuellement, s'entretiennent mutuellement. Donc voilà pourquoi nous avons parlé d'un triangle de la mort.
Mais aussi l'insuffisance du réseau routier, ça c'est aussi un problème.
Bien sûr, l'insuffisance du réseau routier. Bon, évidemment, il y a plusieurs causes, mais là je vous ai cité les causes principales, autodirectionnelles. Voilà.
Est-ce que l'ampleur du problème tel qu'il se présente est tellement grave pour vous permettre de parler d'un problème de sécurité de la population?
Ben, vous savez, un problème est de sécurité nationale lorsque il insécurise la population. Aujourd'hui, nous sommes tous en insécurité. Les spécialistes en épidémiologie disent, compte tenu du niveau de saleté dans laquelle nous vivons nous tous ici, mais à tout moment, une épidémie grave peut se déclarer, elle peut ravager. Vous avez des embouteillages sur deux bandes et qui s'étale sur plusieurs kilomètres. Dans le cas où un véhicule, son moteur chauffe et il prend le feu, mais tous les véhicules qui sont sur une bande d'un kilomètre ou de deux kilomètres à gauche, à droite, tous les véhicules brûlent. Mais ça va être pratiquement une catastrophe. Donc, c'est un problème de sécurité nationale. Les constructions anarchiques, la même chose.
Et pour faire face à cela, vous avez proposé le triangle de développement durable. En quoi va-t-il consister?
Mais voilà, vous savez, et nous avons proposé une batterie de recommandations de portée immédiate, de portée de court terme, de portée de moyen terme et de portée de long terme.
Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que le plan de transport urbain de Kinshasa qui avait été élaboré grâce au financement de la JICA a été pris en compte parmi vos recommandations?
Toutes les recommandations ont été prises. Vous savez, ce travail, comme je l'ai dit, s'est réalisé de manière méthodique. Et donc, tous ces aspects-là ont été pris en compte. Vous savez, c'est un rapport de 250 pages. Qui analyse tous les fléaux de manière systémique et holistique.
Augustin Matatampogno, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Jude Bilanda et à Polydor Basunga.